One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, amis auditeurs, bonjour. Et j'étais en train de m'interroger, on est en décembre, c'est ça? On est en décembre?
T'as pas encore fait tes cadeaux, c'est ça?
Non, pas encore, je suis à la bourre, grave. Et toi Ghislain, tu les as fait tes cadeaux?
Moi je suis en décembre aussi, et non j'ai pas fait de cadeaux.
On est coordonnés ce mois-ci, ça va être formidable, on va faire un mois dithyrambique.
Moi je fais pas de cadeaux.
Tu fais pas de cadeaux cette année?
Non, jamais fait de
cadeaux. J'ai offert un sapin à l'espace public, ça suffit.
Un sapin à l'espace public, faudra que tu nous racontes. Hein. Bon, on va pas perdre trop de temps parce qu'on a un mois quand même chargé parce que ce mois-ci, donc, on a une invitée virtuelle, mais que tu as rencontrée pour de vrai.
Ariane. Oui, pour de vrai.
Ça tombe bien. On fait tout un mois avec elle. C'est Camille de Celle. Je connais pas son vrai nom, mais
c'est utile
de
le. Moi non plus,
toi
en fait.
Non plus. Alors
voilà,
c'est Camille,
on a une invitée, on sait même pas comment elle s'appelle.
Et on s'en fout en fait.
Mais
l'important,
voilà, c'est
ce qu'elle va nous raconter pendant
elle
un mois entier.
Elle m'a quand même vachement intimidée, hein, faut dire. Hein.
Ça s'est entendu dans
merci,
les sons.
Merci, c'est.
Mais non, mais c'est pas un problème. Au contraire, on a senti du respect, de l'émotion. Et donc, ça va transparaître dans ce qu'on va écouter, je pense.
Tu ne sais pas comment nous avons fait les montages, Philippe.
Non, ça, je ne le sais pas. Je vais le découvrir. Première émission, parce qu'on passe 4 semaines avec Camille. Donc Camille, bon, on ne connaît pas son nom, mais est-ce que, en gros, tu peux nous la présenter un tout petit peu, Ariane, avant qu'on commence à entendre le premier son?
Camille, c'est une. Déjà, je voudrais remercier Adrien Delgrange, le donc, journaliste en chef à Radio Pays d'Hérault, qui a insisté d'ailleurs pour que cette rencontre ait lieu, puisque donc ça a été donc le premier à me dire que c'était quand même un personnage très intéressant, qui est très impliqué dans la vie politique au sens social et noble du terme, localement.
On va s'en apercevoir.
Puisque, voilà, Camille fait partie de l'équipe municipale de Celle. Et d'ailleurs, je suis allée la rencontrer.
Celle dans l'Hérault.
Sur le lac du Salagou.
Voilà. Mmh. D'ailleurs, exactement, on était sur le hameau des Vaillées et avec une vue sur le Salagou qui était aussi très troublante. Voilà.
Ok. On écoute. On va découvrir la voix de Camille. Premier son, c'est parti.
Moi, quand j'ai commencé ma transition, j'ai pas compris ce que j'étais en train de faire. Honnêtement, j'ai pas compris. La seule chose que j'ai vue à ce moment-là, c'est waouh, il y a des personnes qui ont le courage d'assumer une image sociale autour de féminin, alors que ce sont des personnes qui sont nées avec un sexe masculin. Chapeau. Moi, personnellement, je n'y arriverai jamais, mais en tout cas, je sais que c'est dans cette mouvance-là que je m'inscris, et je vais essayer, et je voyais ça vraiment au début comme un but absolument inaccessible. Un jour, peut-être, j'aurai le courage d'aller participer à une réunion en milieu bien fermé où je pourrais me vêtir en femme devant d'autres personnes. Tu vois, j'étais à ce niveau-là d'enfermement.
C'était à quel âge, ça, à ce niveau
C'était à 46 ans.
Ah ouais, quand même, quoi.
Et ce n'est qu'après. Quand progressivement j'ai commencé à m'autoriser ce genre de choses, que, tu sais, c'est un petit peu comme un barrage qui lâche. Ça...
Ouais, et du coup, il y en a beaucoup derrière, quoi.
Et du coup, t'as tout qui pète, quoi. Toutes les digues qui pètent les unes après les autres. Et quelques mois après, je me suis retrouvé dans un cheminement non transsexuel, donc avec vraiment des choses un peu lourdes.
Le cadre légal actuel ici, oui.
Non, mais peu importe, je ne parle pas du cadre légal, hein, je parle du cadre médical, c'est-à-dire des interventions lourdes sur le corps pour arriver à une mutation assez radicale. Mais dans les premières semaines, je n'imaginais absolument pas ça. Et quand on en parlait avec Nicole, donc, qui était ma compagne, j'ai dit, mais non, mais t'inquiète pas, je veux juste me permettre de vivre ce que j'ai pas pu vivre jusqu'à maintenant, mais pas plus. Donc en fait, il y a une espèce de retour de balancier qui s'est fait de manière assez fulgurante et qui m'a emmené dans une réassignation psychologique complète. C'est-à-dire qu'en fait, je n'étais pas plus dans la bousculade de la binarité. J'étais en train de m'inscrire totalement dans la binarité, mais en allant dans l'autre cas. Ce n'est que progressivement que les choses en se calmant au niveau des douleurs psychologiques, en faisant leur petit cheminement, se sont ouvertes et que j'ai pu commencer à approcher l'intégration de ma personnalité complète avec tout ce qu'elle a d'une polarité et tout ce qu'elle a d'une autre polarité.
Je suis vachement émue, hein. Je vais mettre du temps ça.
Alors, pour répondre à la fin de ta question, à ce moment-là, justement, on s'est posé la question, comme beaucoup de mes petites consoeurs et mes petits confrères, de dire, ouais, non, mais attends, là, ce que je m'apprête à mettre en œuvre, c'est monstrueux, ça va demander un courage phénoménal. Parce que quand on a vécu pendant pas loin de 50 ans dans la terreur, mais vraiment la terreur, il n'y a pas d'autre mot, du regard de l'autre sur l'image qu'on renvoie, le fait de modifier cette image-là, c'est...
On a une impression de risque vital, ouais.
Ah, c'est plus qu'une impression, c'est une certitude. Mmh. T'as la certitude de toute façon que tu vas te faire rejeter, évidemment, par tout l'entourage, mais surtout par toute la société, que la première fois où tu vas mettre un pied dehors, on va te jeter des cailloux à la figure, et que... enfin, ça va être terrible, ce qui va se passer. Donc, d'où l'idée immédiate qui est de dire, faut foutre le camp, quoi. Une croix sur tout ce qu'on vit là, et puis on s'en va ailleurs. Et là, je crois qu'il y a le premier travail sur soi qui est vachement important, qui est de dire, mais attends, je suis en train d'essayer, moi, de vivre debout et pas en rampant, plus en rampant. Si je vis debout, c'est pas honteux de vivre debout. Donc, qui je suis, même si à mes yeux, c'est encore très honteux, parce que ça veut dire transgresser des règles qui, pour moi, sont des règles absolument intransgressables. Si je commence à transgresser ces règles-là, donc à accepter de donner de moi une autre image, et ben cette image, il faut que j'aie le courage de l'assumer, et de l'assumer non seulement dans mon petit entourage, mais également publiquement.
Alors voilà, on a fait connaissance avec Camille, on a ménagé un suspense de façon un peu involontaire parce qu'on n'a pas précisé avant pourquoi en fait on s'est intéressé à elle. Alors on l'aura compris.
Pourquoi on nous a indiqué qu'elle pouvait faire partie des... Enfin, qu'elle pouvait rentrer tout à fait dans les sujets qui peuvent nous intéresser.
Voilà, donc bah, on l'aura compris, Camille est transsexuelle.
Et c'est pas quelque chose de caché du tout, hein. C'est quelque chose qui fait partie... aussi d'une forme de militance quotidienne, puisque on n'en parlera pas cette fois-ci, mais il y a carrément eu un documentaire qui a été tourné au moment de sa transition, et c'est un film qui est encore utilisé aujourd'hui comme support pédagogique, enfin, c'est un, c'est un outil, quoi.
Alors, est-ce que il y a moyen de se le procurer, ce documentaire, ou parce que je sais que tu l'as évoqué avec elle lors de votre entretien.
C'est un support pédagogique qu'elle utilise elle-même dans les différentes interventions dont on va parler au cours du mois. Et justement, pendant qu'on faisait l'entretien, elle me disait qu'il allait justement être diffusé. Donc maintenant, c'est dans le passé. Mais donc très récemment, il a été diffusé par la mairie de Toulouse dans le cadre d'une journée de sensibilisation pour des professionnels. Et voilà, donc il est régulièrement utilisé. Et voilà, on parlera au fur et à mesure des espaces de militantisme, les différents cercles dans lesquels on peut la rencontrer, puisque voilà, localement, c'est un personnage très important, pas que à Celle, quoi.
Alors, elle est engagée aussi en tant que conseillère municipale, c'est ça,
voilà.
Au niveau de la commune de Celle. Et bah, on va l'écouter parler un peu de... Parce que dans ce genre de cheminement, parfois, la difficulté, c'est d'assumer le regard de l'autre, particulièrement le regard des proches, famille ou amis.
Alors moi, c'est carrément une question que je lui ai posée. Enfin, je lui ai dit toute mon admiration, puisque la plupart des parcours dont j'ai pu avoir vent, c'est des gens qui ont eu, et même pas seulement pour des coming out de parcours trans, pour des choses qui peuvent sembler moins difficiles ou moins compliquées ou que sais-je. J'ai connu pas mal de gens qui ont besoin de partir, d'être dans un ailleurs pour s'autoriser à vivre autrement. Et
c'est pas ce qu'elle a fait.
Pas du tout.
On l'écoute.
Et en plus, voilà quoi, on va entendre.
Ouais.
SLP, ça calme.
J'étais à l'époque adjoint au maire de ma commune. J'ai dit, mais quand je vais me retrouver dans des réunions avec des gens de la préfecture, du conseil général, des machins, etc., je vais ramper sous la moquette, quoi, c'est pas possible. Donc il a fallu faire du travail, et là je me suis fait aider, hein, toute seule j'aurais pas pu, je crois, pour accepter ça, même si j'étais convaincu qu'il fallait que j'en passe par là, il a fallu qu'on m'aide, effectivement, qu'on me tienne un peu la main pour me dire, si, tu peux y aller, là, tu vois, on va y arriver.
C'est énorme. En fait, je savais pas que l'engagement politique avait précédé. C'est vrai, c'est dingue, quoi.
Ouais.
Oh, dingue.
J'étais l'adjoint au maire d'une commune atypique, en plus. Mmh. Donc déjà, on nous regardait en disant, qu'est-ce que ça s'est faire faire. Plus, l'adjoint qui devient adjointe. Là, ça dépasse l'entendement.
Ça a été vécu, du coup, sans trop de heurts, oui, avec ces moments de réunion, avec après donc le côté l'assurance qui est venu d'autres, les encouragements. Ça a été reçu comment par les...
Je crois que globalement, ça a été très, très bien reçu. En tout cas, infiniment mieux que ce que j'imaginais. Donc, il y a une phrase que je tiens à dire, parce qu'elle est importante, c'est que d'une manière générale chez les humains, mais en particulier chez les personnes trans, parce qu'il y a cette confrontation au regard de l'autre qui est très brutale, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, quoi. C'est l'image, les projections qu'on se fait autour de ce qui va pouvoir nous être envoyé à partir du moment où on accepte juste d'être nous-mêmes. Et très curieusement... le fait... Alors, après, il y a des stratégies. Hein. C'est clair que il vaut mieux éviter le choc des images dans un premier temps. Il vaut mieux utiliser le poids des mots. Donc, parler, expliquer les choses aux gens et progressivement faire évoluer une image, c'est toujours mieux que du jour au lendemain.
Arriver avec une image un peu choquante. Voilà.
C'est ça la conclusion du truc. Ghislain, tu veux réagir sur ce que tu viens d'entendre?
Non, moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tous ces parcours qui sont pas, qui sont différents de la norme, en fait, ils t'obligent vachement à réfléchir, à prendre du recul sur les choses pour pouvoir faire en sorte de bien les vivre. Et je trouve ça vachement intéressant, en fait, que les gens puissent à un moment réfléchir, tu vois, se poser, prendre la distance, réfléchir, dire bon, voilà qui je suis, comment je vais faire. Et parce que c'est pas. Enfin, quand t'as un parcours qui est dans la norme, t'as pas à te poser ce genre de questions-là.
Ah non, ça c'est sûr.
Tu vois ?
Mais moi je pense justement que c'est pas forcément de l'ordre de la réflexion et que.
Il y a sans doute une nécessité.
Pour moi, ça se passe dans un espace qui est de l'ordre du sensible. Et parce que justement, enfin moi c'est ce que c'est ma où j'en suis dans ma réflexion actuelle. Le côté intellectuel, le côté réflexif, il peut être complètement maquillé par une grille de lecture normative ou non, mais dans l'espace raisonnable, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être dans une volonté au moins d'être conforme, alors que dans le sensible, on est dans le subjectif, dans l'individuel, dans le personnel, et je pense que c'est plus cet espace-là qui peut permettre à un moment de faire ce pas de côté par rapport au conformisme. Alors que dans la réflexion, on peut se faire tout un tas de raisonnements super étayés, super logiques, qui nous oppressent, qui nous aliènent.
Oui, non, là, je pensais à ça, en fait, quand elle parlait justement du choc des images. Tu vois, c'est-à-dire, elle s'est posée, elle a réfléchi, elle dit « Bon, ben voilà, je vais devenir une fille ». Donc, il y a des gens qui m'ont vu en garçon, et puis quelques temps après, ils vont me voir en fille, ils ne sont pas au courant. Comment est-ce que.
Mais c'est aussi son, tu vois, donc c'est aussi toute son rapport personnel avec l'image aussi, oui. Et on en entendra parler ultérieurement. Donc, ça, c'est aussi, pour moi, hein, c'est aussi. C'est pas forcément quelque chose qui a été réfléchi, mais c'était sa façon de vivre les choses, en tout cas. Parce que le rapport à. Enfin, voilà, on entendra dans un autre son que la question de l'image choc, c'est pas seulement ça, quoi.
Bon, on laisse passer Brigitte parce qu'elle veut absolument prendre la parole. Ça vous dit ?
Allez.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con. J'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas
s'appelle La Émission.
Alors, l'enchaînement de Brigitte et du jingle, merci Olivier. Bon, on retrouve Camille, hein, Camille de Sel, puisque c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. Ça sonne bien, Camille de Sel. Et alors, tu lui as posé la question de la prise de conscience de ce problème. Je pense qu'on peut parler de ça. Hein. Alors, le décalage,
douloureux
problème, n'est-ce pas? Comme dirait Ménine Grégoire, c'est ça?
Honte sur toi.
Mais du décalage qu'il peut y avoir entre le ressenti, la sensibilité, la façon dont on se perçoit à soi, et puis l'image qu'on projette.
On ne peut pas faire de généralité.
Oui, bien
ça,
sûr.
C'est la première chose. Autant de personnes différentes, autant de parcours différents. Quant à la prise de conscience dite tardive par rapport aux prises de conscience dites primitives qu'on situe à tort à l'âge de la puberté, c'est oublier la manière dont fonctionne l'être humain d'une manière générale. Donc moi je vais essayer de remonter un peu plus loin dans le temps. Et puis je vais essayer de ne pas être trop long quand même.
Sinon je mettrais de la musique en même temps,
ce
sera sympa.
Pour beaucoup de personnes, alors, je dis pour beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire pour toutes. Mm-hmm. On est bien d'accord. Hein. Je suis obligé, alors moi, de faire un petit peu des généralités en prenant des espèces de moyennes parmi les centaines de gens que j'ai pu connaître dans ce type de parcours. Pour beaucoup de personnes, la prise de conscience, elle n'est pas tardive. Elle est très précoce. Elle est dans la petite enfance. Pour beaucoup de personnes, dans ces beaucoup-là, peut-être un peu moins, mais encore pas mal, elle fait même partie des premiers souvenirs de la vie. Mmh. Les premiers souvenirs qu'on a dans la petite enfance, c'est... qu'est-ce qui se passe là? Je ne corresponds pas à ce qu'on me dit. Je ne me sens pas correspondre à ce qu'on me dit que je suis. Et là, c'est très très dérangeant. Parce qu'un enfant, a priori, c'est quelqu'un qui arrive, qui débarque sur cette planète avec une ouverture totale, avec un regard grand ouvert sur le monde, avec la curiosité naturelle qui va lui faire acquérir plein de choses qui vont lui permettre de se construire, de construire son identité. Et quand déjà, dès le début, il reçoit des informations extérieures qui lui disent que c'est mignon cette petite fille avec ses petits chaussons roses et tout, et que lui il dit mais moi je me vois pas comme ça, forcément il va y avoir un sentiment de socialement pas très correct qui s'établit. Et c'est là que ça commence à devenir très compliqué, parce que de ce socialement pas très correct, il va y avoir très très vite la prise de conscience que, attention, faut pas dire, attention, danger, là je me mets en danger. Et c'est dur quand on est d'emblée dans une guerre larvée vis-à-vis de tout son entourage, où on se rend compte qu'on est différent de ce que dit l'entourage, mais... que surtout, il ne faut pas en parler, parce que...
On risque l'exclusion, quoi. En fait.
Ah ben, c'est plus que l'exclusion.
Oui, donc, c'est très clair, hein, dans ses propos, il y a vraiment, on peut dire, presque deux temps, quoi. Le temps de le moment de la prise de conscience, qui, du coup, peut être très, très, très précoce.
Je sais, enfin, en fait... C'est plus facile, je pense, de le regarder comme tel, a posteriori, parce que... ça peut se passer tellement jeune qu'il n'y a pas de mots dessus.
Oui.
Donc on n'est pas en pleine conscience de ce qui se passe, on se sent juste en décalage, et c'est pas justement un moment où ça arrive à la surface, c'est un moment où ça va être enfoui. Parce que justement il y a un risque d'exclusion qui va jusqu'à un risque qu'on ressent comme vital, puisque c'est encore un moment où on est dans une dépendance extrêmement forte vis-à-vis des adultes qui nous entourent. Et du coup, ce dont on prend conscience, c'est qu'on ne peut pas faire selon ce qu'on sent, qu'il va falloir le cacher, le refouler. C'est ça le premier temps.
Au point éventuellement de l'oublier.
Ah, mais ça peut être complètement recouvert par autre chose et oui. qu'on le. Et d'ailleurs, elle parle très bien aussi de ce qu'on construit par-dessus. Mmh. Elle a une image très parlante pour évoquer ça.
Le dernier son qu'on va entendre lors de cette émission, on va retrouver Camille tout le long du mois. Mais le dernier son d'aujourd'hui, bah, on l'écoute et puis on en parle après, on conclut parce que le temps avance très vite.
C'est que l'être humain, quand il s'aperçoit qu'il est en déphasage complet avec ce qu'on lui propose autour, eh ben il a différentes manières de tirer des rideaux. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle du rideau qu'on trouvait autrefois dans les trains à la SNCF. Ouais. On déroulait le store là comme ça. Voilà. On tire les rideaux et puis on se fait son petit univers à soi, son petit compartiment. Il peut se passer plein de choses, on peut parcourir des kilomètres, on peut avancer dans la vie, etc. Mais on est enfermé dans ce petit compartiment. Donc au niveau de l'esprit, il y a des choses qui se ferment. Sauf que les choses qui se ferment, les stores qui se ferment comme ça au niveau de l'esprit, forcément à un moment ou à un autre, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de psychanalyse pour le savoir, à un moment ou à un autre, ça te pète à la gueule. Et donc c'est ce... à un moment ou à l'autre, qui peut être très très variable selon les individus. Il y a des individus qui ne vont jamais prendre conscience de leur transidentité. Il y en a, et qui vont mourir comme ça, à 80 ans.
Avec un compartiment super confortable et très bien fermé.
Et avec un compartiment, c'est intéressant le lapsus, parce que justement avec un compartiment très bien fermé, mais un comportement super inconfortable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être totalement aigris, qui vont être dans l'intolérance complète, qui vont rien supporter de leur entourage, qui vont ceci et cela. En tout cas, qui vont mourir sans avoir vécu. Voilà. Et en ne comprenant pas pourquoi ils n'ont pas vécu.
C'est terrible, hein.
Moi, en tout cas, je trouve que c'est Gisler, une personne qui fait beaucoup de bien quand elle s'explique, parce qu'elle est très claire et elle dit des choses très justes et c'est un beau témoignage.
Mais c'est pour ça qu'on va la
retrouver.
J'aime
bien notre émission. C'est vrai.
Alors, la semaine prochaine et les semaines suivantes, on va... Là, c'était plus, on va dire, dans les grandes lignes, son parcours personnel largement synthétisé et résumé trop vite sans doute et la semaine prochaine elle va commencer à nous parler de son point de vue sur le militantisme et on développera plus tard son engagement politique parce qu'elle a un réel engagement politique qui comme elle l'a précisé tout à l'heure en fait a commencé bien avant son cheminement transidentitaire.
Voilà. Et bien d'autres choses encore.
Et bien d'autres choses encore.
Toi aussi, tu parles bien.
À la semaine prochaine. Oh.